Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. À défaut d'avoir pu convaincre le Parlement britannique, Theresa May veut obtenir un report du Brexit d'au moins 3 mois. Nous irons à Londres dans un instant. En réaction de la France, l'intérêt de l'Union européenne passera au-dessus de tout. Nouvelle mobilisation en Algérie pour réclamer le départ du président Bouteflika. Étudiants et professionnels de santé sont rassemblés à Alger et dans d'autres villes du pays. Après le saccage des Champs-Élysées, Christophe Castaner s'explique. Le ministre de l'Intérieur a été interpellé lors des questions au gouvernement à l'Assemblée avant son audition au Sénat. Des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel de la CGT et Force ouvrière. Une journée d'action pour réclamer plus de pouvoir d'achat et défendre les services publics. Reportage de Marie Viennot. Theresa May s'apprête à demander au président du Conseil européen un report du Brexit. La première ministre britannique s'y trouve contrainte du fait du blocage au Parlement britannique. Hier, le président de la Chambre de communes, John Bercow, avait refusé de soumettre aux voix des élus un accord de retrait similaire à ceux déjà rejetés par 2 fois au Parlement. À 10 jours de la date théorique du divorce, Theresa May a donc dû revoir en urgence sa stratégie, Antoine Gignot.
Oui, l'expression a déjà été utilisée à maintes reprises par les éditorialistes, mais Theresa May la reprend à son compte pour la première fois. Elle parle de crise politique. À Downing Street, le porte-parole explique que la Première ministre est en train d'écrire à Donald Tusk, le président du Conseil européen, pour demander un report du Brexit, sans préciser la nature de ce report. Pour le savoir, dit-il, il va falloir attendre que la lettre soit rendue publique. Plusieurs ministres pourtant donnent déjà des détails. Il est possible, explique l'un d'entre eux, que le Royaume-Uni demande à l'Union européenne de repousser dans un premier temps le Brexit à la fin du mois de juin, quitte à prolonger ensuite jusqu'à la fin de l'année 2020. Mais quel que soit le scénario, ce qui se passe ici est pour les eurosceptiques un séisme politique. Cette date du 29 mars a été verrouillée, elle a été inscrite dans la loi par David Davis, l'ancien ministre du Brexit, pour être certain que le Royaume-Uni quitte bien l'Union européenne, et plusieurs membres du gouvernement, comme Andrea Leadsom, Chris Grayling ou Liam Fox, refusent d'accepter la solution du report. Il plaide pour une sortie radicale et pourrait démissionner dans les heures qui viennent.
Antoine Gignot, en direct de Londres. Ce matin, la France et l'Allemagne manifestaient leur exaspération devant l'impasse sur le Brexit, appelant les autorités britanniques à soumettre une initiative crédible lors du sommet européen prévu après-demain. Après l'annonce de cette lettre de Theresa May à Donald Tusk, on ne peut pas dire que Paris et Berlin soient rassurés. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Aurélie.
Paris prévient qu'un report du Brexit au-delà du 29 mars n'est ni évident ni automatique.
Oui, toute demande de report du Brexit par les Britanniques devra être sérieusement justifiée et ouvrir la voie à une solution, dit-on à Paris, même si l'Élysée n'exclut pas d'accorder un délai. 2 conditions sont indispensables. D'abord, une nouvelle stratégie de Theresa May susceptible de réunir une majorité au Parlement britannique. Il faut ensuite que cette nouvelle proposition n'impacte pas le bon fonctionnement ni les intérêts de l'Union européenne, car une prolongation temporaire de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Europe aurait des conséquences sur le Parlement européen, bien sûr, puisque les élections sont prévues fin mai, les Britanniques devraient voter, mais aussi sur la composition de la Commission européenne et du Conseil des ministres de l'Union européenne. La France estime qu'il n'est plus possible de procrastiner ni d'entamer une discussion sur les modalités ou le calendrier du Brexit. Pas question de permettre à la Grande-Bretagne de gagner du temps sans objectif précis. Seul un report purement technique après un vote favorable au Parlement britannique pourrait être accepté afin de permettre la mise en application d'un accord entre Londres et Bruxelles. La France se veut ferme et compte sur ses partenaires. Beaucoup dépendra de la position allemande. Angela Merkel dit vouloir se battre jusqu'au bout pour une sortie en bon ordre du Royaume-Uni. La chancelière rencontrera Emmanuel Macron en tête-à-tête juste avant le Conseil européen après-demain à Bruxelles, où Theresa May viendra demander un report du Brexit. Les dernières réactions dans l'Union européenne aux atermoiements britanniques permettent de penser que la détermination française sera suivie.
Bertrand Galichet, c'est le jour anniversaire de la fin de la guerre d'indépendance en Algérie et c'est un nouveau jour de mobilisation pour faire partir le président Bouteflika qui a prolongé son actuel mandat s'inédié. Rejoint par des professionnels de santé, des milliers d'étudiants ont manifesté à Alger comme dans d'autres villes du pays pour réclamer le changement du système. Waïba Filali a rencontré un jeune Algérois qui défilait aujourd'hui.
À la tête du cortège de la faculté des sciences, Samy, 23 ans, étudiant en écologie, donne des instructions. C'est lui qui donne le tempo des chansons. C'est lui qui, en dehors des manifestations, organise des réunions de préparation. Il passe ainsi des centaines d'appels par jour.
C'est exceptionnel. Déjà le fait que je m'investisse en fait un plaisir à moi, c'est pour l'Algérie.
Ce fils de vétérinaire, fils de mère célibataire, a grandi dans une famille absolument pas politisée. Chez lui d'ailleurs, on ne parle pas des manifestations.
Il parlait plus de faire attention. Ils n'aiment pas voir leur fils s'investir dans ça parce qu'ils ont peur.
Sa fibre politique, il l'a eue en lisant des livres, en lisant l'histoire de l'Algérie, celle de Larbi Benhidi, martyr de la révolution algérienne. Il s'effondre en larmes en parlant.
Et il n'est jamais revenu. C'était pour le pays. On essaye de faire la même chose. De fait, déjà que je vous en parle, ça me met la chair de poule déjà.
Samy se bat lui aussi pour sa liberté, celle de s'exprimer.
Je me suis déjà investi au lycée parce que dès qu'on parlait, il y avait des gens qui venaient. Faites attention, ils vont venir. Ils vous écoutent, alors que tu parles, tu es en train de donner juste ton avis. Les gens avaient peur. Non, tu persistes, c'est ton droit le plus absolu de parler.
L'étudiant refuse pour autant de s'imaginer s'investir en politique.
Une coordination nationale réunissant des dirigeants politiques, des membres de l'opposition et des militants appelle Abdelaziz Bouteflika à quitter ses fonctions à la fin de son mandat, le 28 avril. La coordination demande à l'armée de ne pas s'ingérer dans le processus de transition politique en cours. Contrairement à son homologue algérien, Nursultan Nazarbayev a su préparer sa sortie. Le président du Kazakhstan vient d'annoncer sa démission après s'être ménagé un statut qui lui permet de garder un rôle important dans les instances du pouvoir. Nursultan Nazarbayev, 78 ans, avait pris la tête du Kazakhstan il y a presque 30 ans, à l'époque soviétique, Claude Bruyot.
Même vu de Moscou, la démission de Nazarbayev revêt un caractère inattendu dans la mesure où le dernier grand dirigeant rescapé de l'ère soviétique avait obtenu l'an dernier, par exemple, de diriger le Conseil de sécurité du Kazakhstan jusqu'à sa mort. Poste stratégique qu'il conservera quoi qu'il arrive, mais les voix sont discordantes ce soir dans la capitale russe après cette annonce surprise. Ainsi, le président de la Douma, Vyacheslav Volodin, s'est voulu rassurant. « Je suis convaincu, dit-il, que le successeur du président Nazarbayev poursuivra une politique de bon voisinage avec la Russie. » Beaucoup moins positive en revanche, quant à l'avenir, son homologue au Conseil de la Fédération, Valentina Matvienko, la présidente de la Chambre haute du Parlement russe, évoque elle une décision très grave. La vérité se trouve peut-être entre les deux, dans le coup de téléphone notamment que Nursultan Nazarbayev a passé à Vladimir Poutine avant d'annoncer sa démission. Officiellement le père de la nation kazakh, que certains sites russes d'information présentent ce soir en tenue de skieur, assis sur un remonte-pente aux côtés du maître du Kremlin, Nazarbayev donc veut passer la main à une nouvelle génération. Le nom qui revient le plus souvent est celui de Kassoum Zomer Tokayev, ancien diplômé de la prestigieuse université MGIMO de Moscou, qui fut ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan pendant plus de 10 ans, et que le Kremlin verrait bien diriger le pays, en préservant les liens de proximité bien sûr avec la Russie, et à l'issue tout de même d'un scrutin à venir qui devra présenter d'autres critères de transparence et de choix que tous les précédents, pour garantir à son vainqueur une véritable reconnaissance internationale qui aura finalement toujours manqué à Nazarbayev.
Claude Bruyot, longtemps présentée comme l'usine de la planète, l'Asie serait-elle devenue le laboratoire du monde? En tout cas, en 2018, les inventeurs venus d'Asie ont déposé plus de la moitié des demandes internationales de brevets. C'est du jamais vu, selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et à ce rythme, ajoute cette agence de l'ONU, la Chine pourrait même dépasser les États-Unis d'ici 2 ans. Les explications de Jérémy Lanche à Genève.
56 142 contre 53 345. Au jeu de la bataille du nombre de brevets, Washington devance toujours Pékin pour la place de premier inventeur mondial. Sauf que la victoire a un goût amer pour les États-Unis qui ont vu les demandes de brevets reculer. Alors que la Chine flirte avec près de 10% de croissance en la matière. Le géant chinois des télécoms Huawei a par exemple déposé un nombre record de demandes de brevets pour une entreprise en 2018. 5 405, c'est plus que les deux plus gros inventeurs américains réunis. les firmes Intel et Qualcomm, spécialisées dans les microprocesseurs et les technologies mobiles. Derrière les États-Unis et la Chine, le Japon se classe 3e, l'Allemagne et la Corée du Sud 4e et 5e, juste devant la France, 6e inventeur mondial, mais en perte de vitesse. En temps normal, les chiffres des brevets déposés chaque année ne font pas forcément les gros titres des journaux, mais dans le contexte de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la nouvelle a de quoi inquiéter à Washington. L'administration Trump reproche à Pékin d'utiliser des pratiques commerciales déloyales, dont justement le vol de technologie né aux États-Unis. Donald Trump a redit il y a quelques jours qu'un accord entre les deux premières puissances économiques mondiales pourrait voir le jour d'ici 3 à 4 semaines. Si ce n'est pas un très bon accord pour nous, nous ne le conclurons pas, a néanmoins prévenu le président américain.
La Fédération française des assurances fait les comptes. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les dégâts s'élèvent selon elle à 200 millions d'euros. Ce bilan intègre les dégradations de samedi dernier sur les Champs-Élysées. Suite aux incidents de samedi, l'exécutif a pris des sanctions. Le préfet de Paris a été limogé, tout comme le directeur de cabinet du préfet et le patron de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Mais dans l'opposition, c'est la démission du ministre de l'Intérieur qui est réclamée avec insistance, comme en témoigne le reportage de Maxime Fayolle à l'Assemblée.
Une fois n'est pas coutume, droite et gauche dénoncent d'une même voix la stratégie des fusibles mise en place par le gouvernement. Trois têtes coupées à la préfecture de police de Paris, c'est irresponsable pour le député La France Insoumise Alexis Corbière.
Un manque de courage indiscutable. En République, c'est le politique qui décide. Je crois que personne de sérieux peut dire que le ministre de l'Intérieur était surpris par l'existence de manifestations. Et c'est assez inélégant et très finalement castanérien, j'ai envie de dire. C'est jamais lui qui est responsable. Donc tout ça est assez pitoyable, pardon de le dire comme ça, et symptomatique d'une forme d'affolement généralisé.
De son côté, le leader de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, lui refuse de croire au dysfonctionnement entre la place Beauvau et la préfecture de police.
Comment peut-on croire que le ministre de l'Intérieur ne soit pas au courant? C'est une plaisanterie. Ou alors cela veut dire qu'il est tellement incompétent qu'il doit partir au plus vite. En vérité, il est soit incompétent, soit cynique.
Finalement, seul le patron de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, reste plus mesuré. Il veut attendre le résultat des auditions au Sénat aujourd'hui pour comprendre d'où vient la responsabilité et sanctionner, le cas échéant, Christophe Castaner et son secrétaire d'État, Laurent Nunez.
Si, comme je l'ai entendu ce matin, les instructions qui étaient données n'ont pas été écoutées, obéies par la hiérarchie policière, c'est dans la hiérarchie policière qu'il faut sanctionner. Si en revanche, ils ont eux-mêmes donné l'ordre de lever le pied alors qu'on savait que Paris risquait d'être mis à feu et à sang, à ce moment-là, ils doivent partir.
Jean-Christophe Lagarde qui dénonce aussi l'absence d'audition des ministres à l'Assemblée nationale après le refus des membres de la majorité.
Christophe Castaner apparaît fragilisé après s'être expliqué devant l'Assemblée lors des questions au gouvernement. Le ministre de l'Intérieur se trouve maintenant sous les feux des questions des sénateurs, auditionné par la Commission des lois et des affaires économiques du Sénat, Rosalie Lafarge.
Et il fait face à certains parlementaires remontés à l'image de Michel Raison, sénateur Les Républicains de Haute-Saône.
Je demanderai simplement au ministre de l'Intérieur de nous dire quand est-ce que l'autorité de l'État sera-t-elle retrouvée dans notre pays, car le vrai patron, ça n'est pas le préfet de police, mais ça bien le ministre de l'Intérieur.
Face aux reproches nombreux, le ministre défend son action. Les consignes étaient adaptées samedi, les siennes en tout cas, parce que le gouvernement savait, avait anticipé les événements, assure Christophe Castaner.
Nous avions prévu ce niveau de participation et ce niveau de violence. Et notre dispositif, plus de 5000 policiers et gendarmes, était très important. Il n'y a donc pas eu, en amont, un problème d'anticipation. Nous avions fait part au préfet de police d'une consigne extrêmement claire, la plus grande fermeté. Et je voulais qu'il soit clair que nous devions avoir aucune pudeur à rétablir l'ordre.
Mais cette consigne n'a pas été respectée, répète le ministre devant les sénateurs. Ces ordres n'ont pas été correctement exécutés.
Depuis le 1er décembre, les choses ont changé. Nous n'avons pas baissé la garde et nous nous sommes adaptés aux méthodes des casseurs. Nous avons choisi de devenir plus mobiles. Nous avons convenu de méthodes anti-émeutes et plus de méthodes seulement de maintien de l'ordre. Après des semaines d'un travail de sape sur l'usage des armes intermédiaires, des consignes inappropriées ont été passées qui ont découragé les forces de l'ordre de les employer. Alors nous avons immédiatement examiné les événements et pris les décisions qui s'imposaient.
Et parmi ces décisions, vous le disiez tout à l'heure Aurélie, un grand ménage au sein de la préfecture de police de Paris. Trois têtes qui tombent, mais pas de démission du côté de la place Beauvau. Christophe Castaner reste ce soir le premier flic de France.
Rosalie Lafarge. La mise au point d'Agnès Buzyn sur l'âge de départ à la retraite. Aucune modification de l'âge minimal de départ n'est envisagée ni sur la table des négociations, tient à préciser la ministre de la Santé et des Solidarités. Dimanche, elle avait expliqué ne pas être hostile à l'idée de retarder l'âge de départ en retraite, ce qui avait fait bondir les syndicats. Ils réclament un tournant dans la politique sociale à l'appel de la CGT, de Force ouvrière, de Solidaires et des syndicats étudiants UNEF et UNL. Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé pour réclamer plus de pouvoir d'achat et pour défendre les services publics. C'était aussi une journée de grève dans la fonction publique, un mouvement suivi notamment dans les écoles maternelles et élémentaires où près d'un quart des enseignants étaient grévistes selon les chiffres du ministère. Marie Vienneau, vous avez suivi le cortège parisien où le cabinet Occurrence a compté 17 500 participants.
La retraite à moi, c'est la retraite à moi.
Pour cette première manifestation interprofessionnelle avec les autres syndicats de l'année, Force ouvrière est en tête de cortège. Un cortège donc en gilet rouge, mobilisé par les récentes déclarations de la ministre de la Santé sur l'augmentation de l'âge légal du départ à la retraite.
Ben moi c'est Philippe, voilà. Ben je suis là pour défendre le pouvoir d'achat et puis on est contre la réforme des retraites.
Philippe travaille chez Carrefour. Il a touché 200 euros de prime Macron, dit-il. Une prime qu'on pourrait rebaptiser prime gilet jaune, admet-il.
Oui, on pourrait l'appeler comme ça, la prime gilet jaune, oui.
Et est-ce que vous êtes pour une convergence de la mobilisation entre gilets jaunes et syndicats ou pas ?
Bon, pas spécialement, mais bon, ils sont les bienvenus tant que ça casse pas. Bien sûr, on est avec, bien sûr.
Vous avez déjà fait des manifestations avec les gilets jaunes ou pas ?
Non, pas encore. Je les soutiens.
La réforme Macron !
On n'en veut pas ! On veut plus de lui tout court à Macron ! On n'en veut plus dans ce pays !
Alors pourquoi vous êtes venu là, vous, madame, aujourd'hui ?
Eh ben, on est venu pour faire les revendications, l'augmentation des salaires.
Excusez-moi, madame. Alors vous êtes là, vous avez un gilet jaune, ça a une signification, j'imagine.
Oui, moi je suis assistante sociale en milieu hospitalier et convergente avec les gilets jaunes, bien sûr.
Il y a quelques gilets jaunes dans le cortège, mais il y a surtout des fonctionnaires. Ils ont mis leurs revendications en chanson.
120 000 emplois, allons, c'est comme supprimer, fonctionnaires stigmatisés, faut pas déconner, non, on se laissera pas faire, agent public en colère, le message doit être reçu, ou ça va mal aller.
Après le cortège de FO, vient celui des enseignants. Primaire, collège, lycée, ils en ont tous après les réformes Blanquer. Claude tient la bannière du lycée où elle enseigne l'espagnol dans le 95. Parcoursup n'a pas été en faveur de ses élèves. La grève d'aujourd'hui n'est qu'un de ses moyens d'action.
Alors nous, on est en pleine action en ce moment, oui, avec une action concrète sur les moyennes des élèves. Certains d'entre nous avons mis 20 moyennes pour ce trimestre. Ensuite, nous avons rencontré des parents également. On espère bien qu'on va pouvoir changer des choses. C'est pour ça qu'on est là.
Le cortège s'étire, arrive à proximité de l'avenue où se trouve le MEDEF. Le passage est bloqué par une rangée de CRS, mais personne ne tentera de passer. Manifestation paisible, même si tout le monde sait qu'il en faudra d'autres pour faire reculer le gouvernement sur ses différents projets.
Bloquer le pays !
Bloquer le pays !
Et puis rappelons que la grève du zèle des douaniers se poursuit, les douaniers qui demandent plus de moyens face au Brexit. Autre mouvement toujours en cours, celui des gardiens de prison avec des rassemblements et des blocages. Trois établissements pénitentiaires étaient encore bloqués aujourd'hui. Les surveillants veulent travailler dans de meilleures conditions de sécurité. Le cardinal Barbarin se met pour quelque temps en retrait du diocèse de Lyon. Philippe Barbarin a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des abus sexuels d'un prêtre. Il a fait appel de sa condamnation mais souhaitait démissionner pour apaiser son diocèse. Le pape François a répondu aujourd'hui qu'il refusait sa démission au nom de la présomption d'innocence, une décision qui suscite des remous, Thomas Larabi.
Oui, on peut même parler d'indignation et de dégoût du côté des associations de victimes. Le sommet mené par le pape le mois dernier avait suscité beaucoup d'espoir. Il devait acter une prise de conscience de l'Église. Le pape François avait promis la tolérance zéro et largement laissé la parole aux victimes d'abus. Alors pour François Deveau, fondateur de l'association La Parole Libérée et victime présumée de l'abbé Prénat, cette décision est celle de trop. Il n'attend désormais plus rien du Vatican.
C'est la démonstration que la problématique de l'Église, ce n'est pas la pédophilie. La problématique de l'Église, c'est l'Église, c'est son dogme. Et que partout où l'Église est, l'abus est, et que le pape est pleinement responsable et coupable de cette situation-là. Ça me semblait impossible de faire une telle erreur. Je crois qu'ils sont dans une telle dérive sectaire qu'ils sont tellement persuadés qu'ils sont au-dessus de tout le monde que finalement, c'est pas si étonnant que ça, quoi.
Ce refus du pape, cumulé au retrait du cardinal Barbarin, il intrigue même la conférence épiscopale des évêques de France, tout du moins sur sa forme. Son président, Monseigneur Pontier, s'étonne d'une situation inédite entre deux eaux et inconnue du droit canonique. Enfin, cette décision du pape n'est pas une première. En 2016, au moment des premières accusations, le cardinal Barbarin avait présenté sa démission au souverain pontife, dont il est proche. Une démission déjà refusée par le pape François.
Thomas Larabie. Demain mercredi, le ciel sera nuageux de la Bretagne à la frontière belge, nuages et éclaircies des pays de la Loire à la Lorraine. Sur le reste du pays, le soleil s'imposera. De faibles gelées à prévoir le matin du massif central au nord-est. L'après-midi, il fera 12 à 15 degrés sur la moitié nord et dans le centre-est. 14 à 18 dans le sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.